France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Les contes de Hans Christian Andersen sont mondialement célèbres et l'étaient déjà de son temps. L'auteur de La Petite Sirène, de La Petite Fille aux Allumettes, du Vilain Petit Canard ou des Habits Neufs de l'Empereur n'a pas commencé sa carrière littéraire par l'écriture de contes. C'est pour s'amuser, à titre expérimental, qu'il se mit, dans les années 1830, à en écrire deux ou trois. Et il fut le premier surpris, après la parution de son premier recueil où figuraient déjà La Princesse au Petit Pois et Le Briquet, de son immense succès. Il continua et en écrivit tout au long de sa vie plus de 150, mais fut aussi l'auteur de 1500 pages de journal intime, d'une vingtaine de pièces de théâtre, de 6 romans, de 3 recueils de poèmes et de plusieurs autobiographies, dont la dernière, rédigée alors qu'il avait 45 ans, s'intitule « La boucle est bouclée, le conte de ma vie ». En 1981, Pierre Descargues eut l'idée, pour la série d'émissions « Un homme, une ville », d'arpenter les ruelles de la petite ville de Odensee, lieu de naissance d'Andersen, et d'explorer tous les aspects de sa création littéraire. Dans le deuxième épisode de cette série qui en comptait trois, il s'intéresse en particulier au récit de voyage d'Andersen, lui qui parcourut l'Europe, l'Asie mineure et l'Afrique du Nord, et rencontra sur son parcours la scène littéraire et artistique de son temps. Un homme, une ville, Hans Christian Andersen à Odensee. Aujourd'hui, deuxième épisode, les voyages en chemin de fer. Une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 6 mars 1981.
Hans Christian Andersen.
Un homme, une ville. Hans Christian Andersen à Odensee, en Fionie, au Danemark, et partout où il y a des enfants qui lisent ses contes et qui ne les oublieront jamais. Andersen du souvenir, Andersen de l'imaginaire, inséparable.
Hans Christian Andersen.
Hans Christian Andersen, tel que nous l'avons rencontré, à Odensee, dans la maison de son enfance, et aussi dans la maison où l'on a transporté la chambre de Copenhague, la chambre où il est mort, le lit, le bureau, les valises et les bottes. Andersen, au grand pied, familier à tous les Danois.
Hans Christian Andersen. Hans blev født over, han døde i den gade, hvor jeg blev født. Og hvor han døde. Il est né dans la rue, et je suis né dans la rue où Hans Christian Andersen est mort.
Hans Christian Andersen, trois émissions de Pierre Descargues et d'Eliane Millot, prise de son Daniel Labigne, mixage Yann Parentehen, avec Claude Gainbet, folkloriste, Nils Oxenvad, conservateur de la maison Andersen à Odensee, et aujourd'hui Karl Eibu Poulsen, lecteur de danois à la Sorbonne. Deuxième émission, les voyages en chemin de fer.
Hans Christian Andersen.
Hans Christian Andersen.
Odensee, un autre quartier que celui du musée, la maison où le petit Hans Christian passa son enfance. Nils Oxenvad nous ouvre la porte.
Tout à l'heure, on était dans un quartier cohérent, avec des maisons toutes semblables, avec un étage ou deux étages, des petits carreaux. Ici, nous avons changé de quartier, c'est le centre de la ville actuelle
encore. C'est le centre, oui, c'est ça. Hein?
Et il y a donc des maisons modernes en briques ou bien en béton.
Oui.
Et il reste là un petit groupe de maisons.
Oui.
On entend la porte qui s'ouvre.
Un très petit groupe.
Comme noyé au milieu de la vie moderne.
Oui, c'est ça.
Et ça,
oui.
C'est la maison
d'enfance, où la maison où Andersen a passé ses années entre 2 ans et 14 ans.
Donc c'est de cette maison qu'il est parti pour la grande aventure de Copenhague.
Oui, c'est une autre maison, mais c'est une autre histoire. Mais c'est ici qu'il a reçu les impressions de son enfance, n'est-ce pas?
Bon.
En fait, s'il vous plaît. Il y a un à droite. 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 Voilà.
Ah.
Voilà la chambre.
Les toits ne sont pas plus hauts qu'ailleurs. Hein? C'est le même niveau. Et les Danois qui sont grands se cognent la tête.
Andersen, lui, il était grand.
Il était grand.
Mais son père était petit. Mm-hmm. Sa mère était grande. Mm-hmm. Je crois pas que par l'apparence, il est le fils de sa mère. Mais avec son intelligence et son sens poétique, il était le fils de son père. Bon, une chambre, c'est tout. Voilà.
Deux fenêtres,
avec
des petits carreaux.
Oui.
La porte donne sur une petite entrée,
oui.
Comme de son temps. Il y avait vraiment cette
entrée qui était en commun pour deux.
Pour les appartements.
Oui, deux appartements, oui.
Et c'est là où on pose les parapluies, les cannes, on s'essuie les pieds plein de neige.
Si on en avait, oui.
Ouais. Et puis on entre, alors c'est à droite, donc, pour aller chez Andersen, c'est à droite. Et il y a, en tout et pour tout, une pièce.
Une pièce, oui.
Voilà, qui doit faire 4 mètres sur 4,
oui.
À peu près, hein,
oui.
Grosso modo.
Pas de mobilier, je regrette.
Un lit.
Un lit, oui. Un banc où a emplacé le garçon, une table, puis une petite cuisine au fond.
Ah, ce qui nous paraît une cour.
Il y avait une cuisine spéciale.
Ah, avec une pièce avec une cuisine.
On a
donc
fait
un poêle.
Oui, c'est ça.
On y va?
On y va, oui.
On a la cuisine dans l'air. Ah. Oh, la cuisine, c'est la moitié de la chambre. À peu près, hein?
Oui.
Avec une autre porte qui donne sur une cour.
Sur la cour, oui.
Voilà.
Et dans cette cour, on avait une partie réservée à la famille Andersen. Et il n'y avait qu'une plante dans cette partie de la cour. C'était un groseillier.
Oui.
Vous connaissez, avec des groseilles. Et Andersen, enfant, s'est placé devant ce groseillier avec... Une étoffe comme tente où il s'est assis là-bas pour regarder les groseilles grandir et il a rêvé.
Pendant que dans le Jutland, le petit Jacobsen raconte son Andersen, à Paris, Emmanuel, 8 ans, lit et relit les contes avec ses amis comédiens André Dusselier et Catherine Laborde. Ce conte-ci, je suis sûr que tout le monde va le reconnaître.
Ouh, y a Glemte. Non, sagde heksen. Så går jeg ned og henter det igen. Da han havde hentet det, spurgte han, hvad hun...
Il vint un soldat qui marchait au pas cadencé sur la route. Une, deux, il avait son sac d'ordonnance sur le dos et un sabre à son côté, car il avait été à la guerre et il rentrait chez lui. Et il rencontra une vieille sorcière sur la route. Elle était affreuse. Sa lèvre inférieure lui pendait jusqu'à la poitrine. Elle dit « Bonsoir, soldat. Comme tu as un grand sac et un beau sabre, tu es un vrai soldat. Tu vas avoir autant d'argent que tu voudras. » « Merci, vieille sorcière, dit le soldat. Vois-tu ce grand arbre ? Il est tout à fait creux. En dedans, tu grimperas au sommet. Tu verras un trou dans lequel tu pourras te laisser glisser au fond de l'arbre.
Et à la porte de la cuisine, il y a un
qui donne sur la cour, oui. Mais dans cette maison, il y avait 3 appartements. Et encore une fois, des appartements surpeuplés. Pas dans l'appartement d'Andersen, parce qu'il n'y avait que 3 personnes, mais dans les autres, à l'autre côté de l'entrée, il y avait une famille d'un gantier qui a fabriqué des gants. Je crois qu'il y avait 8 enfants dans cette famille. et puis dans la troisième, une autre famille. Mais Andersen, comme enfant, il s'est séparé des autres. Il n'a pas joué avec les autres garçons parce qu'il était timide et rêvant. Il n'était pas comme les autres garçons et les autres enfants de son âge.
Mais on le voit très bien, là, on va aller dans cette cour où, oui. Moi, je le verrai toujours, comme vous avez dit, assis sous le groseillier avec un tissu sur la tête pour s'isoler du monde.
Il y a encore un groseillier. Attention.
Il est là, le groseillier.
Enfin, c'est pas le groseillier original.
Il est là, c'est très bien.
Mais il faut se figurer que la cour était séparée en trois petits cours. Petites cours.
Chacun avait son domaine, donc c'était bien séparé.
Avec son domaine,
c'était
pas commun. Et puis une petite maison pour les ce qu'on met sur le poêle.
Le bois.
Les bûches.
Le bois. Oui, c'est
c'était
ça.
C'était le bûcher.
Oui. Voilà tout.
Et, voilà. Et ici, il y a un texte gravé dans le marbre, j'imagine.
Oui.
Vous nous, placé, vous nous dites placé, en danois d'abord. On aime bien entendre du danois.
Oui, en danois, ça veut dire « Oh, on est dans l'année 1830 ». À l'occasion de l'anniversaire 125e de la naissance d'Andersen, c'est le théâtre de Odense qui a restauré cette maison, la maison d'enfance d'Andersen. Et le théâtre a fait don de cet édifice à la municipalité de Odense.
Voilà.
À ce temps-là, je crois que le théâtre a eu de l'argent. Le théâtre n'a plus.
Je t'attacherai une corde autour de la taille afin de pouvoir te remonter quand tu m'appelleras. Qu'est-ce que je ferai au fond de l'arbre ? Demanda le soldat. Tu rapporteras de l'argent, dit la sorcière. Sache que lorsque tu seras descendu, tu seras dans le grand couloir, qui est très clair, car plus de 100 lampes y brûlent, et tu verras 3 portes. Tu pourras les ouvrir, la clé est dessus. Si tu entres dans la première chambre, tu verras au milieu du plancher une grande caisse. Un chien est assis dessus. Il a des yeux grands comme des tasses de thé. Mais je ne te soucie pas de lui. Je te donne mon tablier bleu à carreaux. Tu l'étendras sur le parquet, puis va prendre hardiment le chien. Pose-le sur mon tablier, ouvre la caisse et prends autant de pièces que tu voudras. Elles sont toutes en cuivre. Mais si tu préfères de l'argent, tu iras dans la chambre suivante.
Je crois que cette ville d'Odense, nous ne pouvons la connaître que de façon imaginaire. Alors, puisque nous sommes dans la maison de l'enfant d'Andersen, je crois qu'il faut regarder par la fenêtre. Ces petits carreaux qui sont pleins de bulles et qui sont bien jolis et qui déforment un peu la réalité. Et oubliez qu'en face, il y a quelque chose qui doit être une banque en béton ou bien un édifice municipal. Alors, on va se placer en 1810, par exemple.
Oui.
Et qu'est-ce que nous voyons par la fenêtre ?
À l'autre côté de la ruelle, on pouvait regarder des maisons comme celle-ci. Des petites maisons à un étage. Et comme les voisins ou les voisines de la famille Andersen, on avait des veuves et des filles non mariées, dans une sorte d'institution. Mais c'était des veuves et des filles de par exemple, des négociants ou des vicaires, c'est-à-dire une autre classe de la société que celle d'Andersen, n'est-ce pas? Mais là, Andersen, le petit Andersen, est d'aller pour emprunter des livres. On avait des livres dans son foyer, parce que son père était une personne lisant, n'est-ce pas? Mais à l'autre côté, il pouvait aller emprunter Shakespeare et les poètes allemands. Je me demande comment Andersen a lire ces choses-là, si les livres n'étaient pas traduits, je ne sais pas. Mais il a toujours lu.
Là est assis un chien qui a des yeux grands comme des roues de moulin. Mais ne te soucie pas de ça. Pose-le sur mon tablier et prends de l'argent. Et si tu veux avoir de l'or, tu peux aussi en avoir et autant que tu pourras en emporter. En allant dans la troisième chambre seulement, le chien qui est assis sur la caisse a des yeux qui sont grands, chacun comme des tours rondes. C'est un vrai chien. Tu peux me croire, mais ne te soucie pas du tout de ça. Pose-le simplement sur mon tablier. Il ne te fera rien. Et prends dans la caisse autant d'or que tu voudras.
Et est-ce que cette maison où nous sommes est loin de la résidence des frères Gris?
Non, c'est pas très loin, 500 mètres d'ici.
Oui. Je veux dire que le monde d'Andersen est tout petit. Et oui. Autour de la cathédrale, 500 mètres de rayon,
petite ville.
Tout est là,
oui.
Il a tout.
Mais
à la fois
pour
les...
lui, tout un monde.
Bien sûr, à la fois les vieilles femmes qui racontent des histoires, en face, la possibilité d'avoir des livres, tout est près de lui, tout est proche.
Oui. Hein?
Il peut tout trouver, et la campagne à quelques mètres.
Ah oui, c'est ça. Hein?
Et la pêche peut-être.
À l'autre côté de la rivière d'ici.
Et la pêche dans la rivière peut-être, pêcher les poissons.
Il y en avait, oui, et des rats.
Enfant, il est pratiquant, il va à la messe. Qu'est-ce qu'il suit? Il suit son père ou sa mère pour...
Je ne sais pas.
Parce qu'il y a trois pas à faire.
Oui, mais il
pour
n'a
la
pas...
cathédrale.
Mais il a décrit sa première communion, sa confirmation, on dit en danois, à l'âge de 14 ans. On a confirmé son baptême, n'est-ce pas? Et ça a arrivé dans la cathédrale, l'église de Saint-Knud. Mais pour cette première communion, le pauvre garçon a reçu de neuves bottes.
Ah,
et pour lui...
Des bottes neuves.
Oui, de bottes neuves.
Les premières
c'était un événement pour lui, même pour le fils d'un cordonnier. Mais à ce temps-là, son père était mort. Mais il n'est pas... Pendant le service, la première communion, il a toujours regardé ses bottes neuves. Et il a... regardez si les dames dans les loges ont remarqué qu'il a des bottes neuves. C'est-à-dire qu'il a fait, il a oublié tout ce qui se passait d'autre que les bottes neuves.
Ce n'est pas mauvais, ça, dit le soldat. Mais qu'est-ce que je te donnerais, vieille sorcière? Car tu veux avoir aussi quelque chose, je suppose. Non, je ne veux pas avoir un sou, dit la sorcière. Tu prendras seulement pour moi un vieux briquet que ma grand-mère a oublié.
Thank you.
Les contes, on y reviendra dans la troisième émission, ne sont qu'une partie de l'œuvre d'Andersen. Il y a beaucoup de théâtre, beaucoup de romans, beaucoup de voyages. Le fils du savetier et de la blanchisseuse a connu l'Europe des châteaux et l'Europe des intellectuels. On retourne à Odense, au musée, avec Claude Gagnebet et Niels Oxenvad devant les vitrines.
On aperçoit un roman qui est ôté. Quelle est la signification de ôté ?
Ça s'appelle la prison de Odense, ça veut dire tortue ou prison ou bagne. Et le héros de ce roman est né dans ces conditions modestes, comme le fils d'une fille qui était emprisonnée. Mais c'est aussi les initiales de ce personnage. C'est le roman numéro 2 d'Andersen. Et puis on a numéro 3. Qui est publié une année après, qui s'appelle « Rien qu'un violoneux ». C'est le roman d'un génie qui n'est pas favorisé. Ses talents ne sont pas favorisés par la destinée, c'est-à-dire que le soleil ne brille pas sur lui. C'est pourquoi il reste rien qu'un violoneux. Il n'est pas un génie.
Paganini.
Le Norvégien ou le Boule. Mais seulement un violoneux de village, n'est-ce pas? Et ce roman a une certaine importance parce que ça provoque le premier livre du philosophe Søren Kierkegaard. Mais naturellement, il donne une sorte de compte rendu du roman d'Andersen. Il est très, très critique parce que, du point de vue de Kierkegaard, Andersen n'a pas un système philosophique. Ils se sont connus, mais ils ne sont jamais devenus des amis.
Non, c'est-à-dire qu'on voit difficilement comment entre la pensée de Kierkegaard qui est très précise, qui refuse les images un peu simples, et celle d'Andersen, il puisse y avoir passage.
Si différent.
Absolument.
Oui. Il n'y avait pas une possibilité d'un accord entre ces deux.
On se demande même dans quelle mesure, quelle est la formation philosophique d'Andersen restreinte.
Voilà une question qui est très difficile à répondre, parce que il n'est pas à placer dans un certain système. Je ne sais que répondre à cette question, parce que c'est très très difficile. Il est influencé par un philosophe qui n'était pas un philosophe, mais H.C. Hurst, le physicien, est aussi un philosophe. Et je crois que c'est peut-être son modèle dans la philosophie, c'est son ami Hurst.
Les wagons où nous allons monter sont rangés comme des gondoles le long d'un quai. Mais plus loin dans la gare de triage, les rails se croisent comme des liens magiques inventés par les hommes. Sur ces liens doit rester notre voiture magique. Sinon, il y va de notre vie, de nos membres. Tout paraît avoir des jambes. La vapeur, le bruit, la bousculade pour trouver une place, l'odeur de suif, le mouvement régulier du mécanisme, les ronflements et aspirations de la vapeur qu'on lâche, ajoutent à la nature impressionnante du spectacle. Quand on est là pour la première fois, on pense à des accidents, on voit des bras et des jambes cassés, on croit qu'on sera lancé en l'air ou écrasé par un autre train, mais à mon avis, on n'y pense que la première fois. Voilà le coup de sifflet du départ. On dirait le cri d'agonie d'un porc qu'on égorge. On ne sent d'abord qu'un mouvement très doux des voitures. Puis on attache les chaînes qui les relient entre elles. La vapeur siffle de nouveau et l'on avance d'abord aussi lentement qu'un jouet tiré par la main d'un enfant. La vitesse s'accroît imperceptiblement. Mais on lit son livre, on consulte sa carte et l'on ne sait pas encore exactement à quelle vitesse on va. Car le train glisse comme un traîneau sur un champ de neige uni. On regarde par la portière et l'on découvre qu'on s'élance aussi vite qu'un cheval au galop. Encore plus vite et l'on croit voler. Mais on n'est point secoué, on ne suffoque pas, aucune de ces impressions désagréables auxquelles on s'était attendu. Voilà la vraie façon de voyager à travers les plats pays. Hans Christian Andersen.
Peut-être qu'il vaut mieux que continuer avec les voyages.
Allons-y.
Toute sa vie, Andersen a voyagé et il a écrit l'éloge du chemin de fer.
Mais il a fait le tour de l'Europe, de l'Asie mineure et de l'Afrique du Nord. Qu'est-ce qu'il en a retiré? D'abord, quelles relations artistiques, littéraires, philosophiques ou scientifiques a-t-il établi au cours de ses voyages? Et ensuite, quelles impressions de voyageurs a-t-il ramené? Et enfin, est-ce que ces voyages ont servi à l'écriture de ses livres?
Oui. Les voyages ont donné les sources de beaucoup de ses livres. Et je crois que son voyage, comme exemple, on peut dire son voyage en Orient, en 1840 à 1841, ça donne comme résultat littéraire le livre qui s'appelle Le bazar d'un poète. Le voilà. Ça, c'était son voyage le plus long en temps et en distance. Et c'est à ce voyage qu'il essaye pour la première fois d'aller en chemin de fer, oui, c'est vrai, en Allemagne, parce que c'était temps-là, on n'avait pas de chemin de fer au Danemark. Mais pour lui, c'était d'aller en Grèce, d'aller en Turquie et dans les pays de la Danube, la Bulgarie, la Roumanie, la Serbie. C'était très, très intéressant.
La Grèce qui venait d'être libérée.
D'être libérée, une très petite Grèce. Il l'a décrit dans ses journaux intimes d'abord, puis dans les lettres qu'il envoie à ses amis au Danemark, et puis dans le livre. On peut chercher comment il fait, comment il utilise ses impressions visuelles dans ses différentes sources, ses journaux, ses lettres et le récit de ce voyage. Et le premier parmi les Danois d'aller en Orient et en écrivant sur ce qu'il a vu et entendu là-bas.
Quand on regarde les voyages d'Andersen, eh bien, il faut imaginer que c'est différent d'aujourd'hui. Quand il arrive en Allemagne, il est reçu dans les principales cours, et sur le champ, il connaît, il rencontre, il visite les poètes, les musiciens. Ses amitiés avec Liszt, avec Mendelssohn, ça va très vite. Il connaît les poètes, il connaît Camusso, il connaît Tieck. Quand il va en Espagne, c'est la même chose. Il rencontre tout ce qui est important,
c'est drôle,
la littérature et la pensée. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est une quête, c'est une rencontre, c'est une familiarité avec l'intelligentsia du temps?
Je crois qu'Andersen, sa personnalité a eu une sorte de rayonnement. Il a charmé son entourage. Mais naturellement, il fait quelque chose lui-même pour attirer les personnages qu'il veut bien connaître. Les autres artistes, oui, c'est ça. Et dans les différents milieux, les peintres, les musiciens, les compositeurs, les philosophes, les princes, les danseuses et tout ça. Mais je crois qu'en Allemagne, c'était Weimar dans la génération après Goethe et c'était Munich en Bavière. Il a même connu Wagner, Liszt et Wagner, tous les deux, et Mendelssohn, Schumann, Clara Schumann, toute cette génération du 19e siècle.
À Leipzig, il me fallut rendre visite à Mendelssohn Bartholdy. Le gendre et la fille de M. Collin, excursionnant sur le Rhin, l'avait rencontré sur le bateau et dans la conversation, il leur avait demandé s'ils connaissaient le poète Andersen. « C'est presque un frère pour moi », avait répondu Madame Drusen. Mendelssohn leur raconta alors que pendant une maladie, on lui avait lu « Rien qu'un violoneux ». Ils s'étaient pris d'une grande affection pour le livre et pour son auteur. Monsieur et Madame Drusen avaient dû promettre de me saluer de sa part et m'inviter à le venir voir si jamais je passais à Leipzig. Je me présentais donc au Gewandhaus, où l'on m'avait dit qu'il était en répétition. Il arriva, la figure un peu crispée, contre le fâcheux qui le dérangeait. « Je n'ai que quelques minutes à vous accorder, » dit-il d'un ton bref. « Mais vous m'avez invité vous-même, » répliquai-je. « Vous m'avez fait même dire de ne pas traverser votre ville sans venir vous voir. » « Andersen !» cria-t-il tout épanoui. Il m'embrassa et m'entraîna dans la salle. Je dus assister à la répétition de la 7e symphonie de Beethoven. Mendelssohn voulait à toute force me garder à dîner, mais j'étais déjà retenu et aussitôt après, la diligence partait pour Nuremberg. C'est à Nuremberg que je vis pour la première fois des daguerréotypes. En 10 minutes, paraît-il, on obtenait son portrait. Cela me semblait prodigieux. Le daguerréotype et le chemin de fer, deux miracles de notre époque, étaient déjà pour moi deux nouvelles acquisitions du début de mon voyage. Dans la direction de Munich, le train m'emporta vers mes anciens amis et le 2 décembre, je quittais la ville pour l'Italie, le pays de mon rêve, par le Tyrol, Innsbruck et Brenner. Le conte de ma vie, Hans Christian Andersen.
Et quand il est allé en France, il a rencontré, bien sûr, Alexandre Dumas, qui
l'a mis
en
état. Ah, oui, Alexandre Dumas, père.
Victor Hugo, Rachel. Victor Hugo, Rachel.
Oui, c'est ça. Lamartine, Alpha de Vigny. Voilà. Même Honoré de Balzac.
Quand il est allé en Angleterre, il a rencontré Dickens.
Oui. Et Lord Palmerston, even. Mais c'est drôle. Mais je crois qu'il ne faut pas sous-estimer son charme et son rayonnement. Parce que je me suis demandé comment il a parlé avec, par exemple, Hugo ou Rachel, parce qu'il ne savait guère parler français. Comme styliste, il est très très fin, n'est-ce pas? Mais il a eu de grandes difficultés à parler ou à écrire par exemple, le français ou l'anglais. Il a toujours eu des amis qui l'a aidé en écrivant une lettre en français ou anglais. Mais dans la conversation, je ne sais pas comment faire. Il a raconté lui-même, il faut cette conversation en signe.
Mais en Allemagne, il n'y a aucun problème.
Oui, il a parlé en allemand très bien, oui. Il a même fait la lecture de ses contes en allemand.
Et je pense qu'auprès des romantiques français, moi je pense à Nerval, bien sûr. Oui. Nerval, je ne sais pas si Nerval était présent à ses entretiens, mais enfin, c'était un des rares romantiques français qui aurait été capable de transmettre un peu de la poésie d'Andersen, puisqu'il avait traduit Goethe.
Oui.
Je pense que par l'intermédiaire, il y avait quand même une si forte influence de l'Allemagne que c'est peut-être par l'intermédiaire de l'allemand qu'il arrivait dans tous les milieux européens.
Oui. Vous savez que Dumas a fait la traduction d'un ou deux de ses contes. Il a employé une traduction allemande. Puis il a traduit de l'allemand en français. Et puis il oublie que c'est son ami Andersen qui a écrit l'histoire.
Et il la signe de son nom.
Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça.
Chez Lamartine, je fus frappé par l'aspect aristocratique de sa demeure et de sa personne. Et il m'apparut comme un prince du monde des lettres. Je m'excusais de m'exprimer si mal en français. Il me répondit avec son exquise politesse que lui-même, plutôt, devait être blâmé de ne point connaître les langues nordiques. « Votre littérature, m'a-t-on dit, est si fraîche, si florissante, votre seule poétique si étrangement fertile, où l'on n'a qu'à se baisser pour ramasser une corne d'or. » Il connaissait beaucoup de gens et de choses du Danemark, ce qui me surprit chez un Français. Sa femme avait un de ces caractères aimables et fermes à la fois, qui inspirent l'attachement et la confiance. J'ai conservé de Lamartine ces quelques vers qu'il m'adressa avant mon départ. « Cachez-vous quelquefois dans les pages d'un livre une fleur du matin cueillie au rameau vert. Quand vous rouvrez la page après de longs hivers, aussi pur qu'au printemps son parfum vous enivre. Après les jours bornés qu'ici mon nom doit vivre, qu'un heureux souvenir sorte encore de ses vers. » Le conte de ma vie, Hans Christian Andersen.
Andersen, au sommet de sa carrière, vers 1850, il a 45 ans à peu près.
Oui, c'est l'époque où il est demandé d'écrire son autobiographie. Et il faut dire qu'il l'a fait à plusieurs reprises. Il a écrit la première autobiographie à l'âge de 30 ans. C'est très tôt, n'est-ce pas? Mais la biographie finale, c'est la biographie qu'il a appelée lui-même « Le conte de ma vie ». Parce qu'il l'a fait comme un autre conte, pas parmi les autres, mais un conte aussi, « Mit Livs et Aventures », « Le conte de ma vie ». Et nous sommes heureux d'avoir ici le manuscrit original de cette autobiographie. Et on peut étudier comme il a rédigé et comme il a corrigé dans le texte de cette autobiographie.
Alors, l'écriture d'Andersen...
Oh, c'est très difficile, parce qu'il il écrit dans les caractères gothiques. Quand il écrit en danois ou en allemand, c'est toujours les caractères gothiques. Quand il écrit en français ou en anglais, il pouvait écrire en caractères latins. Mais c'est cela, les gothiques. Et c'est très difficile parce qu'il a écrit très, très rapide, je crois.
Il faut maintenant situer Andersen dans la littérature danoise, Carl Eibu Poulsen, danois de Paris.
Andersen se situe dans le groupe d'écrivains, qu'on appelle au Danemark des romantistes.
Romantistes et pas romantiques.
Des romantistes et pas des romantiques. Au Danemark, on a les deux mots, les romantiques, qui est réservé plutôt aux écrivains du début du siècle, où c'est le romantique d'inspiration allemande. Le romantisme, c'est un mouvement qui débute dans les années 1830 d'inspiration européenne, c'est-à-dire les romantistes européens, Victor Hugo, Heine surtout, Byron. C'est une littérature qui a du mal à médier, à harmoniser le ciel et la terre. Il y a trop d'expériences qui refusent de s'inscrire dans cette harmonie que dicte l'idéologie dominante. Les années 30, c'est aussi les troubles politiques. On assiste à un mouvement libéraliste qui aboutit à la constitution danoise en 1849. Donc, ce sont ces années assez bouleversées dans lesquelles écrit Andersen. Et surtout, ses débuts, son tout premier succès, c'était L'enfant mourant, ça a été un succès sentimental. Mais on voit quand même bien des traits romantistes, le petit enfant qui meurt malgré le bon Dieu. On n'y peut rien. Il a écrit un autre petit texte, je préfère l'appeler, qui a été un peu ignoré, c'est Voyage à pied du canal de Holmen à la pointe est d'Amer. Un tout petit voyage, mais là...
Quelques kilomètres, en fait.
C'est, oui, même pas quelques kilomètres, c'est un kilomètre, si vous voulez. On voit le poète qui avance lentement, qui regarde autour de lui avec une faculté d'observation déjà considérable à l'époque. C'était d'ailleurs ça qui a fait le génie d'Andersen, sa faculté d'observer directement.
Donc il se situe à l'intérieur d'un groupe, mais ce groupe n'est pas organisé un groupe surréaliste, par exemple.
Le groupe n'est pas du tout organisé. On compte... Il y a Andersen, il y a un autre poète, Rostrup, qui écrivait des poèmes érotiques qui étaient trop osés pour l'époque. C'est un ami, Christian Winder, lui aussi un poète érotique, qui a publié ses poèmes en 1838, si je me rappelle bien, et en a vendu 22 exemplaires. C'était trop pour le bon goût à l'époque. Il y a un autre, un poète exotique, qui vivait en...
Exotique.
Exotique, pour les Danois, il vivait en Jutland, Steinsteinsenpleger, qui écrivit des nouvelles réalistes sur la vie des paysans jutlandais.
Mais rappelons que le Jutland, c'est la presqu'île, et que c'est pour tout le monde le Danemark. Alors,
expliquez-nous
le mot exotique, il faut le justifier, ce mot.
Ça veut dire que pour l'époque, alors le centre culturel, c'était Copenhague. Le romantisme ou la culture unitaire de l'époque, c'est une culture surtout de la classe bureaucrate, les professeurs, les pasteurs, les militaires, qui étaient tous à Copenhague. Il y a un petit cercle autour de Copenhague, la Zélande peut y entrer, mais la Jutland, c'était pour l'époque quelque chose de tout à fait exotique.
La campagne
c'était,
la plus lointaine. Quoi.
C'était la campagne.
Les sauvages.
C'était véritablement les sauvages.
Est-ce qu'on peut dire un mot de l'état de la langue danoise à l'époque d'Andersen? Est-ce que la langue est faite déjà? Est-ce qu'elle est affirmée? Est-ce qu'elle a son unité, son vocabulaire, ses syntaxes? Est-ce qu'elle est déjà dans l'état où nous la connaissons aujourd'hui?
Ah non, elle n'est pas du tout dans l'état dont on connaît aujourd'hui. Il faut dire que, tout d'abord, la situation du Danois. Il y a eu beaucoup d'étrangers au Danemark, des Allemands, des Français. Au XVIIIe siècle, on disait que le Danois, c'était la langue qu'on parlait uniquement avec son serviteur. Avec le chien, on parlait anglais. Avec madame, on parlait français. Et avec ses relations commerciales, on parlait allemand. Holberg, au XVIIIe siècle, fut le premier à écrire en danois. Il faut dire aussi que le danois n'était pas enseigné à l'école. Les lycées s'appelaient les lycées, l'école latine, parce qu'on enseignait en latin, on n'enseignait pas le danois. Le danois était admis comme langue d'enseignement qu'en 1838, vers là, et comme langue des examens vers 1852, si je ne me trompe pas. Donc, dans le danois de l'époque, on trouve beaucoup de tournures étrangères, allemandes, surtout beaucoup de mots allemands. Et donc, aussi, la culture unitaire, c'était une culture de l'écriture. Il fallait savoir l'écriture pour pouvoir y accéder. Ce qui a été le génie d'Andersen, c'était justement de décrire comme on parle.
Donc, quand Andersen arrive dans la littérature, est-ce qu'on peut dire qu'il est un phénomène rare ? Ou bien, est-ce que c'est son origine qui le distingue des autres ?
C'est plutôt son origine qui le distingue des autres. Donc, à l'époque, tous les écrivains, sauf trois, étaient des fils de pasteurs, ou étaient eux-mêmes pasteurs. Enfin, les trois qui n'étaient pas nés dans cette classe bureaucrate, c'était, enfin, les trois grands, c'était Oehlenschläger, le premier grand romantique danois, c'était Kierkegaard, dont le père était un grand marchand, et c'était Andersen, dont le père était cordonnier, donc il venait pas du prolétariat, mais quand même de la couche la plus basse de la petite bourgeoisie.
Ma route, je l'avais taillée dans la roche abrupte. Pas à pas, j'en avais creusé les degrés, et maintenant j'occupais une place bien assise dans la littérature de mon pays. Cette douceur quiète qui m'enveloppait me semblait plus favorable à l'épanouissement de mon talent que l'amère et impitoyable critique d'autrefois. Je reconnaissais pourtant que cette dure école avait pu être nécessaire à mon développement et à mon bonheur. Le conte de ma vie, Hans Christian Andersen.
Quels ont été pendant tout ce temps les rapports de Andersen avec sa ville natale, Odense ? Est-ce qu'il y a été reconnu et célébré ?
C'est la même chose que le prophète et sa patrie. Les relations entre Odense et Andersen étaient rompues pendant une période, pendant une vingtaine d'années. Mais puis, à l'âge de 60 ans, on devient des amis. Encore une fois, mais dans le cas d'Andersen, c'est-à-dire que sa génération à Odense n'est plus là. Cette génération est morte à ce temps-là. Mais dans les années 1860, il est reçu à Odense comme le grand danois. Maintenant, il est le grand danois avec une renommée universelle, n'est-ce pas ? Il a eu des décorations sur son veston. Il a eu des titres et tout ça. Et maintenant, M. Andersen, c'est le grand danois et le grand citoyen de Odense. Et c'est à cette époque-là qu'il reçoit son diplôme comme citoyen d'honneur de Odense. Et c'est le récit de cette fête de où il reçoit le diplôme, c'est la culmination, les dernières pages de son autobiographie, Le Conte de ma vie. C'est maintenant Aladdin qui est reçu au château.
Et vous avez dans le musée une fresque qui, je crois, représente le retour d'Andersen. On va la voir ?
Oui.
Mais l'acoustique est
là. Ça va changer un peu.
Oui.
Voilà, c'est donc une coupole. Elle est de l'ancien musée, avant qu'il ne soit transformé il y a 5 ans, 6 ans maintenant.
Non, pas cette salle.
Pas cette salle, c'est de l'ancien musée, justement.
Ça a été construit.
C'est-à-dire de quelle année ?
De 1930.
Bien, et alors un peintre
a raconté... Décoré par un peintre qui s'appelle Nils Larsen Stearns, qui ont choisi des scènes de la vie d'Andersen. Mm-hmm. On commence avec l'enfance, naturellement, et puis on marche le long des murs, et on finit avec une scène où Andersen a reçu ce diplôme comme citoyen d'honneur de Odense. Vous pouvez regarder comment ses concitoyens le célèbrent avec cette procession des torches. Mm-hmm. Et maintenant, Andersen vit comme une ancienne prophétie de son enfance est réalisée. Il y avait cette institution des frères Gris, une vieille femme qui lui a donné la prophétie qu'une fois Odense sera illuminé en son honneur. Et ça, c'était au début du siècle, n'est-ce pas? Maintenant, c'est réalisé. Mais il faut dire que Andersen a raconté cette histoire dans son autobiographie qu'il a publiée 12 ans avant. C'est-à-dire que les bons gens de Odense savaient très bien que faire pour plaire à Andersen.
Il faut dire que c'est la nuit, que toute la place, c'est l'hôtel de ville, je pense, c'est la grande église.
C'est la place avant l'hôtel de ville, c'est la cathédrale au fond, oui.
Voilà, tout ça est illuminé, il y a des torches et la retraite au flambeau. Et on voit toute la population, c'est intéressant parce que à cette époque, les gens portent le costume de leur rang social. Il y a donc des hautes formes, il y a aussi des casquettes, il y a des gens sans chapeau. Et tout ce monde se précipite vers une petite silhouette timide qui se penche à la fenêtre illuminée. Petite silhouette noire, d'ailleurs.
Dans la fenêtre, oui, et qui a mal aux dents.
Il a mal au temps.
Oui.
C'était sa seule maladie.
Dans ce moment où il a la culmination de toute sa vie.
Maintenant, le conte de ma vie se déroule devant moi, plein de richesse, de beauté, et si consolant. Du mal est sorti le bien, et de la douleur a jailli la joie. Je me sens l'enfant du bonheur. Les plus hautes personnalités de mon époque m'ont reçu amicalement, et ma foi dans l'humanité n'a pas été trompée. Les jours de détresse et de peine portent quand même en eux des germes de bénédiction. Le conte de ma vie, Hans Christian Andersen.
Andersen mourut, oui, il est mort en 1875 à Copenhague. Et comme je vous ai dit, il était célibataire, il n'avait pas de famille, mais il y avait une famille bourgeoise et juive, Melchior, qui l'a reçu comme leur invité dans leur villa à Copenhague. Et c'est-à-dire qu'il était soigné par Madame Melchior pendant la dernière période. Cette mort, c'était un événement national. On peut regarder ici, sur cette estampe, son enterrement à l'église Notre-Dame de Copenhague. Le roi de Danemark était là et tous les fonctionnaires de l'administration, de la vie culturelle et les étudiants, oui. C'était un événement national parce que c'était le Danois parmi les Danois qui est mort maintenant.
Ces dernières heures ont été dures, l'agonie a été pénible.
Il souffrait d'un cancer dans la foie. C'est-à-dire que les trois dernières années de sa vie étaient assez dures et tristes.
Par privilège spécial, nous allons entrer dans la chambre d'Andersen.
Voilà. Voilà une reconstruction de sa chambre. Il est domicilié à Copenhague, à une rue qui s'appelle Nyhavn, près du Théâtre Royal, parce que le théâtre, c'était le centre de son existence à Copenhague. Mais il a loué trois chambres, et cette chambre, c'était son chambre de travail, où il a écrit les derniers de ce conte, où il a reçu ses amis, où il a rassemblé les différents objets qu'il a gardés de ses voyages et qu'il a reçus de ses amis pour ses anniversaires, oui. Et puis, on a dans le coin un paravent, un contre-feu, fabriqué par Andersen lui-même, parce qu'il était aussi une sorte d'artiste d'image. Il a su dessiner, il a su découper avec ses ciseaux, et ce paravent est une sorte de collage où on peut regarder qu'il a eu le sens de composition. Chaque section de ce paravent est collée d'une centaine de découpures de journaux illustrés, de périodiques, et quelque chose.
Mais ce paravent, en quelque sorte, est une autobiographie aussi. C'est le
paravent. Oui,
le paravent qui raconte la vie d'Andersen.
Oui, il est lui-même sur le paravent. On peut le trouver.
Alors, qu'est-ce que dit ce paravent? Qu'est-ce qu'il raconte dans Andersen?
Il raconte sur les différents milieux, les différents pays qu'il a visités. Pour vous, c'est peut-être intéressant de regarder la section française avec le colonne de Vendôme. Andersen était à Paris au moment où on a placé Napoléon au sommet de cette colonne. Voilà Napoléon et l'Aiglon. Voilà Louis XIV, Gambetta, le prince impérial. Et voilà. Qui est ce personnage?
Rossini.
C'est Rossini, oui.
Il y a là des intérêts.
C'est bien intéressant de faire une analyse de.
Et chaque parties. Panneau, il y a quatre panneaux, est consacré à un pays.
Il y a quatre, il y en a quatre autres.
Derrière en, le panneau. Oui, c'est ça. Le panneau à côté du panneau, c'est un peu l'histoire de la France. C'est l'Angleterre,
c'est
on
France,
voit Shakespeare.
C'est l'Angleterre.
On voit Shakespeare.
Et puis, il y a
voit Byron.
L'Orient. Et oui.
Shakespeare, Byron.
Shakespeare, Byron. Je crois que Dickens doit être là aussi. Et il y a une section allemande et autrichienne. Et il y a deux sections danoises naturelles avec le... c'est difficile de regarder l'arrière-plan. Avec comme centre le Théâtre Royal de Copenhague.
Sur le paravent, bien sûr, il y a un chemin de fer. Et devant le paravent, eh bien, il y a les valises d'Andersen.
Oui, les valises d'Andersen qu'il a emportées sur ses voyages en Europe ou même en Orient. Mais, et puis, il y a une corde. Et la plupart des visiteurs se demandent pourquoi il a emporté une corde. Mais ça a une certaine histoire. Il avait une amie qui est morte sur l'Atlantique comme le résultat que le navire a pris feu. Et après cet événement, Andersen a toujours craint d'être brûlé si un hôtel où il s'est installé allait brûler pendant la nuit. C'est pourquoi il a toujours eu une corde avec lui. Avec celle-là, il a eu la chance d'échapper par la fenêtre.
Et sous la corde et sur les deux valises en cuir, la canne d'Andersen et le parapluie d'Andersen.
Oui, oui, oui.
Et devant, la paire de bottes.
Les paires de bottes qu'il a achetées au Maroc ou en Espagne. La petite valise qu'il a reçue comme présent du roi de Danemark. Le roi a utilisé cette petite valise quand il est allé en Grèce pour visiter son fils, qui est roi là-bas. Et puis, quand Andersen va lui-même, pas en Grèce, mais en Allemagne ou en Suisse, le roi lui donne cette valise.
À côté de la valise, il y a évidemment les embauches pour les bottes.
Pour les bottes.
Et on voit qu'Andersen avait des grands pieds, ce
marché. Ah oui, il vivait sur un grand pied, oui, c'est ça. Numéro 45 ou 6, je crois.
Es geht ein gedämpfter Traum entlang, wie weit noch die Strecke der Welt, wie lang. Oh, wär der Zug und alles vorbei, ich glaub, es bricht mir das Herz entzwei. Ich hab in der Welt nur ihn geliebt, nur ihn, ihm jetzt man den Tod auch gibt. Bei klingendem Spiele wird paradiert. Dazu bin auch ich kommandiert. Freudigen Strahl, nun
Il y avait une fois 25 soldats de plomb qui étaient tous frères, car ils étaient tous nés d'une vieille cuillère de plomb. Ils étaient l'arme au bras, la tête droite, rouge et bleu, l'uniforme était assez bien. La première parole qu'ils entendirent en ce monde lorsqu'on ôta le couvercle de la boîte où ils étaient couchés fut « Des soldats de plomb ». Tu sais ce que c'est, t'as déjà vu ? Oui ? Un petit garçon avait poussé ce cri et battait des mains. Il les avait eus parce que c'était son jour de naissance et il se mit à les ranger sur la table. Chacun des soldats ressemblait exactement aux autres. Un seul était un peu différent. Il n'avait qu'une jambe, ayant été le dernier coulé quand il ne restait plus assez de plomb. Il se tenait tout de même solidement sur son unique jambe, comme les autres sur leurs deux, et c'est lui précisément dont l'histoire est curieuse. Sur la table où ils étaient rangés se trouvaient beaucoup d'autres jouets. Mais celui qu'on remarquait le plus était un joli château de carton. Par les petites fenêtres, on pouvait voir dans les salons. Dehors, de petits arbres entouraient un petit miroir qui était censé représenter un lac. Des cygnes de cire nageaient dessus et s'y miraient. Le tout était gentil, mais le plus ravissant était une petite demoiselle debout au milieu de la porte du château, elle aussi coupée dans du carton et qui portait une jupe de linon très clair et un ruban bleu sur l'épaule, comme une draperie. Au milieu du ruban était fixée une paillette brillante, aussi grande que sa figure. La petite demoiselle avait les deux bras en l'air, car elle était danseuse, et elle levait si haut une de ses jambes que le soldat de plomb ne la voyait pas et croyait que la demoiselle n'avait qu'une jambe comme lui.
Dimanche matin, à Copenhague, nous nous sommes rendus évidemment dans le quartier de Nyhavn. Le quartier de Nyhavn est actuellement aussi célèbre dans le monde que celui de St. Pauli à Hambourg, de Pigalle à Paris ou de la Zeedijk à Amsterdam. C'est un quartier qui, à midi, n'est pas encore réveillé, ce qui explique que toutes les boutiques soient fermées, et puis aussi peut-être c'est dimanche. Et il faut bien qu'un jour par semaine, les tatoueurs de Nyhavn se reposent.
« Voilà une femme pour moi, se dit-il. Mais elle est d'un haut rang, elle habite un château. » Moi, je n'ai qu'une boîte, et nous sommes 25 dedans. Ce n'est pas un endroit pour elle. Tout de même, il faut que je tâche de faire connaissance. Et il s'étendit de tout son long derrière une tabatière qui était sur la table. De là, il pouvait regarder la délicate petite dame qui continuait à rester sur une jambe sans perdre l'équilibre. Qu'est-ce que tu crois qu'il va arriver ?
Ben, après, ils vont se rencontrer.
Oui ? Mais à quel moment ? Et puis vont se marier ?
Non.
Ça va pas finir bien ?
Non.
Pourquoi ?
Parce que le soldat ne trompe pas, et ben il va être brûlé.
Nyhavn, c'est un grand passage d'eau avec des ponts par-dessus où se sont réfugiés quelques bateaux de pêche, plutôt quelques bateaux de pêche transformés en bateaux de plaisance. Et je crois que l'été, quand les touristes sont là, il y a bien sûr ici tout le va-et-vient des gens qui vont faire en bateau le tour du port de Copenhague. Le froid est sur nous, mais ça ne nous empêche pas de regarder et d'essayer d'interroger un peu ces maisons qui, après une large voie, bordent donc cette voie d'eau de Nyhavn. Ce sont des maisons confortables. On a l'impression qu'ici, il y a plus d'argent que dans l'équivalent des maisons qu'on trouve à Amsterdam. Ce sont des maisons imposantes, peut-être un peu plus hautes, avec des vitres peut-être plus étroites, mais on s'y reconnaît bien. Et en tout cas, ce qui est commun avec la Hollande, c'est que les escaliers sont très raides et montent vers des choses mystérieuses, des étages où les fenêtres ouvertes ne nous informent pas sur ce qui s'y passe. Les mouettes, bien sûr, sont dans le paysage. Et si nous sommes ici, après ce long préambule, c'est pour dire que c'est là que, en définitive, le petit enfant d'Odense, Andersen, a fait sa vie d'écrivain. Il est arrivé dans la maison en face de laquelle nous nous trouvons, au 67 Niavne, en 1846, et il l'a quittée en 1864. Donc l'essentiel, une grande partie du moins, de son œuvre littéraire a été écrite ici, et dans notre dos, une maison peinte dans cette couleur rougeâtre dont que les Danois affectionnent, une maison dont il occupait l'entresol, et c'est dans cette maison, au 18, que Andersen est mort. Et nous avons vu, je le rappelle, sa chambre dans la maison qui lui a été consacrée à Odense.
On continue un peu pour voir comment ils se rencontrent. Lorsque la soirée s'avança, tous les autres soldats de plomb entrèrent dans leur boîte et les gens de la maison allèrent se coucher. Alors les jouets se mirent à jouer, c'est-à-dire à recevoir, à se battre et à danser. Les soldats de plomb faisaient du bruit dans la boîte, car ils voulaient en être, mais ils ne parvenaient pas à soulever le couvercle. Le casse-noisette faisait des culbutes, et le morceau de craie plaisantait avec l'ardoise. Le tapage fut tel que le canari se réveilla et se mit à bavarder, et même en vers. Les deux seuls qui ne bougèrent pas de place furent le petit soldat de plomb et la danseuse. Elle se tenait droite sur la pointe du pied, les deux bras en l'air, et lui, il n'était pas moins inébranlable sur son unique jambe, et pas un instant, il ne quittait des yeux la demoiselle. Minuit sonna, et clac ! Voilà le dessus de la tabatière qui saute. Elle ne contenait pas de tabac, pas une miette, mais un petit troll noir. C'était une attrape. C'est ce que c'est un petit troll ? C'est un petit génie. Tu sais, c'est un tout petit homme. Soldat de plomb, dit le troll, veux-tu bien ne pas fixer les yeux comme ça ? Mais le soldat de plomb fit comme s'il n'entendait pas. Oui, attends à demain, tu verras, dit le troll. Lorsque vint le matin et que les enfants arrivèrent, le soldat de plomb fut placé sur la fenêtre et soit que ce fût le troll ou le courant d'air, soudain la fenêtre s'ouvrit et le soldat fut précipité la tête la première du troisième étage. Ce fut un voyage terriblement rapide. Il avait la jambe en l'air et il resta debout sur sa casquette avec la baïonnette enfoncée entre deux pavés. La bonne et le petit garçon descendirent tout de suite pour le chercher. En bas, ils furent sur le point de marcher dessus et ne purent pourtant pas le trouver. Si le soldat de plomb avait crié « C'est moi, c'est moi !» il l'aurait bien trouvé. Mais il ne trouva pas convenable de crier parce qu'il était en uniforme. Se mit à tomber très fort. Ce fut une sérieuse averse. Lorsqu'elle fut passée, arrivèrent deux gamins des rues. « Tiens, dit l'un, voilà un soldat de plomb. Il va partir en bateau. » Puis après, les petits-enfants, ils vont s'amuser avec les soldats de plomb. Tu connais l'histoire ?
Pas bien.
Alors, il lui arrive un tas d'aventures à ce soldat de plomb. Et puis, à la fin, oh ben oui, ça finit pas bien. Tu veux savoir comment ça finit ?
Oui.
Oui ? Oui. Il lui arrive un tas d'aventures. Et puis, finalement, il revient dans l'appartement où il avait connu sa belle princesse dont il était amoureux et qui était en carton. Il se trouva dans le même salon où il avait déjà été. Il vit les mêmes enfants et les jouets étaient sur la table. Il revit le délicieux château avec la gentille petite danseuse. Elle se tenait toujours sur une seule jambe et avait l'autre haut en l'air. Elle était aussi inébranlable. Le soldat de plomb en fut ému. Il fut sur le point de pleurer, mais ce n'était pas convenable. Il la regarda, elle le regarda, mais ils ne dirent rien. Soudain, l'un des petits garçons prend le soldat et le jette dans le poêle, sans donner aucun motif. C'était sûrement la faute du troll et de la tabatière. Le soldat de plomb fut tout ébloui. Il ressentit une chaleur effroyable. Mais cela venait-il vraiment du feu ou bien de l'amour ? Il ne le savait pas. Ses couleurs s'étaient effacées. Était-ce arrivé par le fait du voyage ou par le chagrin ? Personne ne pouvait le dire. Il se sentait fondre, mais se tenait encore bien droit, l'arme au bras. Alors, une porte fut ouverte. Le vent s'empara de la danseuse qui s'envola comme une sylphide vers le poêle auprès du soldat de plomb. Elle s'enflamma et disparut. Puis le soldat de plomb fondit en un petit pâté et lorsque la bonne le lendemain enleva les cendres, elle le trouva comme un petit cœur de plomb. De la danseuse, Il ne restait que la paillette. Et elle était noire comme du charbon.
Il y a une chose que je me souviens dans... Quand il va aller dans le bateau, les deux garçons, ils vont le mettre dans un bateau. Et de là, il va partir dans les caniveaux. Après, à la fin, il va arriver dans la mer. Et il va... Un poisson va le dévorer, va l'avaler. Et on pêche ce poisson. Et quand là, une poissonnière ouvre le poisson, elle trouve le soldat de piment.
Et ce poisson, il est acheté par les gens qu'il connaissait où il habitait avant.
Oui.
Et c'est comme ça qu'il retrouve sa petite danseuse qu'il aime toujours.
Oui.
Et elle aussi, elle l'aime.
Je sais pas.
Non, tu crois pas?
Non.
Ben, puisqu'elle va dans le feu avec lui à la fin.
Mais c'est le vent qui la pousse, c'est pas elle.
Ah bon.
C'était Un homme, une ville, Hans Christian Andersen à Odensee, par Pierre Descargues. Deuxième épisode, Les voyages en chemin de fer. Une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 6 mars 1981. Vous pouvez la réécouter en ligne ou la télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique Les nuits de France Culture.